Bon, voilà. Bonsoir à tous. Je suis désolée pour ce petit incident. Donc nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Antonio Aimi, qui est américaniste de l'Université de Milan, et qui donc a publié ce livre que on va. Je ne vais pas vous le passer tout de suite parce qu'il va vous montrer des tas d'images qui sont issues de ce livre. Et donc. Il va nous expliquer, il va nous parler de ces fouilles récentes qui ont eu lieu à Lambayeque, voilà, au Pérou. Donc merci Monsieur Aimi d'être venu ici au Salon de lecture de Milan pour nous faire cette présentation. Merci beaucoup.
Bien, merci à vous. Et tout d'abord, j'aimerais remercier Monsieur Stéphane Martin, le président du musée du Quebrali Jacques Chirac, qui m'a donné l'occasion de présenter ce livre dans une institution si prestigieuse. Puis je veux remercier Madame Muriel Ardor qui a organisé la présentation du livre, et Patrice Righiero, que je connais il y a 20 ans et qui maintenant est en charge du département des Amériques du musée. Et je remercie aussi le public qui est venu pour une conférence sur un thème qui n'est pas très, très connu, parce que si on parle de l'Amérique précolombienne, on connaît les Incas, les Mayas, le département de Lambayeque, la culture lambayeque qui n'est pas connue. Ça veut dire qu'il y a que le présent, ceux qui sont ici sont très intéressés à cette petite culture. Je veux remercier aussi les auditeurs de ce livre, nous sommes en trois, et je veux remercier aussi les auteurs des essais de ce livre, parce que c'est un livre collectif. Alors, bien sûr, n'est pas à moi de dire si ce livre est important ou non, de toute façon, c'est un travail collectif qui s'est développé et qui a été fait par des collègues, des amis italiens et péruviennes qui travaillent dans le Pérou et surtout dans le département de Lambayeque qui se trouve dans la côte nord du Pérou. Ce livre est né, existe, et est c'est la dernière publication que nous avons faite dans le domaine, dans le marque de deux projets de la coopération italienne dans le Pérou. Le projet Prodecipan et le projet Propormac. Le projet Prodecipan s'est développé du 2006 à 2009, 2010, et le projet Propormac de 2010 jusqu'à 2017, jusqu'à maintenant. Les deux projets se sont développés dans le cadre des accords du Canque de Deuda, c'est-à-dire de la conversion ou annulation de dettes des prêts que le Pérou devait à l'Italie. C'est une chose faite par des autres pays européens, la France aussi a fait pareil. Le projet de la France s'appelle Fondo Contravalore. Dans quelques mots, on peut dire que ce projet marche ici, assis. C'est-à-dire que le pays créancier annule la dette, et dans ce cas annule la dette du Pérou, à condition que le fonds soit utilisé pour des projets de lutte contre la pauvreté. Généralement, ce projet se développe dans l'agriculture, par exemple, en aidant les paysans à améliorer la cultivation de pommes de terre, etc. Dans notre cas, ces deux projets se sont développés dans un cadre bien différent, c'est-à-dire nous avons pensé que pour améliorer la condition de vie de la population qui habite dans les zones rurales du Pérou, c'est plus intéressant d'invertir sur le tourisme, c'est-à-dire sur l'archéologie, que sur que sur l'agriculture. J'étais en Pérou dans le 2005 pour une autre recherche historique, non? Et Par hasard, alors, j'avais rencontré le directeur de la coopération italienne. Et alors, j'avais dit lui, oui, franchement, voyez, si vous mettez 10 euros dans des projets sur la cultivation, sur l'agriculture, par exemple, sur la cultivation du café ou de pommes de terre, les paysans vont gagner 11 euros. Si vous mettez 10 euros sur le tourisme, les paysans vont gagner 50 euros. J'étais convaincu de ça parce que je connaissais la situation du Pérou, et c'est-à-dire je connaissais que dans ce temps-là, mais la situation ici aujourd'hui n'a pas changé beaucoup, le 90% du tourisme américain, de touristes européens et américains qui vont au Pérou, ils font le circuit sur, c'est-à-dire ils vont à Machu Picchu et à Cusco, et c'est tout. Et il n'y a personne qui va dans le nord. Même si dans le nord, il y a des musées avec des pièces extraordinaires, non, surtout des pièces en or, les plus belles et les plus importantes du Pérou. Et même si dans le nord, il y a les tombes plus riches de l'Amérique, si, ou du monde peut-être, si on utilise un critère de bijoutier. Mais dans le nord aussi, il y a les tombes plus importantes pour la géologie péruvienne qui ont donné l'information plus importante sur la culture moche. Alors, on peut utiliser le critère des bijoutiers, aussi le critère des archéologues. C'est-à-dire, alors j'étais convaincu que c'était possible de développer le tourisme dans le nord pour ces raisons. Et d'un côté, je savais que j'avais vu que dans ce temps-là, les sites plus importants de la côte nord n'étaient pas attractifs d'un point de vue touristique, pour une raison très simple, nous le verrons maintenant. C'est-à-dire que les constructions des anciennes cultures de la côte, dans le département de Lambayeque, mais dans toute la côte du Pérou, ne sont pas attractives. Pourquoi ? Elles sont faites avec des adobes, c'est-à-dire des briques séchées au soleil, et même s'il y a le désert, quand il y a de la pluie, ces briques faites avec de l'argile séchées au soleil se pulvérisent. Alors les grandes constructions, il y a là-bas aucune des plus grandes constructions du monde. Par exemple, à Pampa Grande, il y a une pyramide de 1 million de mètres cubes, etc. Ils ne sont pas attractifs parce que c'est comme on voit comme une colline d'argile, et c'est tout. Alors, j'ai pensé que ces constructions pouvaient devenir attractives si on présentait, si on était capable de les nettoyer. Et c'est comme ça, avec une très petite restauration. J'avais vu ça à la Huaca Pucliana de Lima. À Lima, il n'y a jamais de la pluie, non? On dit qu'il y a un petit peu de pluie chaque 75 ans, etc. No? Était la Huaca Pucliana maintenant un restaurant très bon. Et je ne sais pas si vous étiez là-bas. Alors, j'étais là-bas une fois avec le directeur, le propriétaire du Museo Larco. Il était en train de présenter, de faire l'Aïda de Verdi. No? Et là-bas, il y avait des panels, des dessins qui rassemblaient plus ou moins, qui représentaient plus ou moins l'ancienne Égypte. Et en voyant ce panel, j'étais tombé pour la surprise, parce que je pensais que ce n'est pas la peine de faire des panels de dessins qui ressemblent à l'ancienne Égypte, quand ici, on peut voir l'architecture de la culture Lima, non? On peut voir les adobes, on peut voir les anciennes constructions, et avec des jeux, des lignes comme les dessins d'Escher qui sont extraordinaires. Alors j'étais convaincu que était possible rendre attractifs les sites de la côte nord. Étant donné que je connaissais Alva après l'expo que j'avais organisée à Florence en 2003, alors j'ai convaincu le directeur de la coopération italienne et on a commencé le projet à Sipana. Et alors, dans le domaine du projet de Sipane, on a fait des fouilles. Walter Alva et Quirino Olivero ont fait des fouilles. Et on a fait les choses que maintenant je vais vous montrer. Et nous avons présenté un livre avec les résultats de ce projet. Après, nous avons commencé un autre projet, mais c'est toujours dans le département de Lambayeque, dans l'autre côté du département, dans la forêt de Pomac. Et alors, maintenant, je vous présente les images. Alors, oui, l'istituzione della cooperazione italiana che ha fatto tutto ça, c'est il Fondo Italo-Peruano, un'istituzione binazionale italiana e peruviana, l'ha fatto l'Università di Milano e il progetto di Sipane è stato sviluppato con il Museo Tumbas Reales di Sipane, che ha come direttore Walter Alba, che è l'archeologo che ha découvert le tombe di Sipane, e il progetto la forêt de Pomac a été fait avec le Musée national de Sicane. Alors, notre projet se sont développés ici, plus ou moins, vous voyez, Sipane se trouve ici, et la forêt de Pomac, le sanctuaire historique des bosques de Pomac, c'est ici. Se voit très bien parce que c'est la seule forêt sèche équatoriale qui existe dans le Pérou. Dans l'ancien Pérou, dans le Pérou précolombien, étaient ces forêts qui se trouvent dans les oases fluviales de la côte. La côte est toujours un désert, mais quand il y a cette petite rivière qui descend des Andes, il y a cet écosystème particulier de bosque seco tropical, c'est-à-dire des arbres comme... des arbres qui résistent à la sécheresse et qui ont des raies très profondes et peuvent exister et résister dans le désert, bien sûr à côté des rivières. Tout le reste de la côte, c'est un des déserts le plus riche, le plus sèche du monde. Alors,
comment s'appelle cette
forêt ? Sanctuaire historique au bosque de Pomac. Ça, c'est Sipane, où nous avons fait notre projet. Ça, c'est la pyramide cérémoniale de Sipane. Et ça, c'est la forêt d'Algarobo, du bosque de Pomac, de la forêt de Pomac. Comme vous voyez, ce sont des paysages, surtout ici, extraordinaires. On n'est pas habitué à les voir dans le Pérou, parce que ici, dans le bosque de Pomac, c'est comme être à Tikal, dans le pays maya, no? Il y a les constructions précolombiennes qui poussent vers le ciel dans la forêt. Bien. Dans Sipane, nous avons changé la géographie de Sipane dans notre projet. Vous voyez ici Sipane dans une image Google Earth de 2007 et vous le voyez ici après la fin de notre projet. Alors, ici, vous voyez ces constructions sont les musées de site et sont les structures pour les habitants de Sipane. Et ici, en détail, vous voyez les tombes et les fouilles faites par les archéologues. Moi, je ne suis pas un archéologue, je commence à travailler quand les archéologues terminent. Ici, les fouilles ont été faites par Walter Alva et Lucio Cero. Ça, c'est la tombe, c'est le personnage plus important de la tombe 14. Qui a été découverte dans le domaine de notre projet. Et ça, c'est une autre tombe qui se trouve ici. La plateforme funéraria, où on a trouvé les tombes plus riches du monde, si on utilise un critère de bijoutier, se trouve ici. Ça, c'est la plateforme funéraria. Ça, c'est la pyramide est, la pyramide ouest. Et ça, c'est, et ces autres tombes, c'est une tombe tarde, Lambayeque, a été fouillée ici. Et une chose que pour moi, c'est très important, c'est la construction du musée des sites, ici, un très musée de sitio, un très petit musée, vous le voyez ici. Ça, c'est la reconstruction du personnage de la tombe 14. Je suis très, très heureux de le musée des sites parce que il n'a pas de pièces très extraordinaires. Oui, c'est une tombe importante, mais pas à niveau de la tombe 1, 2 ou 3, etc. Mais ce musée petit, fait par nous, il a été fait pour moi, Walter Alva et Quirino Oliveira, mais il arrive à faire 50 000 visiteurs tous les années. Et comme vous voyez, nous sommes ici dans le désert, n'est pas beaucoup loin de Chiclayo, sont 30 km, mais il faut une heure et demie pour arriver là-bas. Et ces 50 000 visiteurs, pour moi, sont très importants parce que mettent le musée des sites devant des autres musées du département de Lambayeque qui, bien sûr, ont des pièces beaucoup, beaucoup plus importantes, comme le musée Bruning, par exemple, ou le musée national de Sicane, qui a des pièces extraordinaires. Et de toute façon, là-bas, ils vont moins de visiteurs que dans ce musée des sites. Alors, pour moi, ça veut dire que l'idée que j'avais vue en 2006, c'est-à-dire d'utiliser l'archéologie pour développer le tourisme et lutter contre la pauvreté, marche. Vous voyez, ça c'est le moment de l'inauguration du musée des sites, faite pour... l'inauguration était présente le président du Pérou, d'ailleurs, c'est-à-dire Alan Garcia, vous le voyez ici. Ici, l'archéologue Walter Alva, ça a été le président de... n'était pas le président, était député, un congressiste de même parti d'Alan Garcia, et ça, c'était l'ambassadeur italien. Et nous avons fait aussi ce livre qui présente les résultats de notre recherche, surtout les résultats de l'excavation de la tombe 14. Et ici, nous avons fait un congrès en Chiclayo pour présenter les résultats des fouilles de notre recherche avec tous les plus importants, je peux le dire, moxicologues du monde, c'est-à-dire qui sont les moxicologues, qui est un moxicologue? Les moxicologues sont ceux qui, les spécialistes de la culture moche. Sont ici, manque seulement Luis Amex Castillo qui ne pouvait pas venir, vous voyez Santiago Zeda qui est en train de faire une très importante exposition pour les Quebranli, Cristobal Makowski, Regulo Franco, Lucio Cero qui a travaillé dans la fouille de la tombe 14, Walter Alva, Steve Bourget et Christopher Donnan. Ça, c'était un congrès, une table redonde pour évaluer les résultats de notre recherche archéologique. Et ça, sont les constructions pour aider les paysans. Alors, vous voyez cette structure qui permet de vendre les produits typiques de la forêt, de la région. Nous avons porté l'eau potable. Et ça, c'est une maison communautaire par les habitants de Sipane. L'idée, plus ou moins, à Pomac était la même. Vous voyez, nous sommes ici dans le côté occidental de la forêt sèche. Alors ça, c'est la situation dans 2010, dans le Google Earth, et ça sont les constructions nouvelles qui ont été faites dans le domaine de notre projet. Et ici, bien sûr, on a porté l'eau potable, etc. Ici, il y avait une chose différente, une idée différente en relation à Sipane. Ici, c'est une région où il y a une cultivation spéciale d'une de l'orge, que c'est un cultivar que si on utilise la semilla, le sème, pousse les graines, pousse une chose un petit peu différente. Ça, c'est une cultivation qui se pousse pour partager. Et c'est une cultivation typique seulement de sa région. Un produit un petit peu différent se trouve dans tout le Pérou, mais seulement ici, il y a cette production. Alors, nous avons pensé de faire une fabrique pour la production de la farine de l'orge. Ça, c'est l'orge. Et ici, vous voyez pour la fabrique pour la production de l'orge, une construction nouvelle pour les habitants de de ce village qui s'appelle Pomac 13. Et après, c'est très intéressant ici parce qu'il y a le coton natif. Dans tout le monde, on utilise, il y a le coton, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le coton natif, le coton précolombien, de manière naturelle, à ce color que vous voyez. Alors, notre idée était l'idée de développer la cultivation de ce color, de ce coton naturel qui a ce color naturel. Et non, bien sûr, on a préparé les femmes qui font les tissus, etc., dans les villages. Ici, c'est une vue aérienne de la bosque de Pomac, de la forêt. Et ça, c'est la construction la plus importante. S'appelle l'Ouaka Lirgansèche. Ici, dans la forêt, vous avez des autres constructions qui poussent vers le ciel. Ça, c'est la plus importante. Ici aussi, à Ouakaloro, on a trouvé la deuxième tombe plus riche du monde, si on considère la quantité d'or et d'argent. Non, la tombe est de Ouakaloro. Et ça, c'est la construction la plus importante. C'est-à-dire, si on peut faire une comparaison, si on cherche de traduire les critères funéraires de la culture lambayeque pour nous, dans l'Europe, c'est-à-dire que ça, c'est comme Notre-Dame, et ça, c'est une église de périphérie. Alors, dans une église de périphérie, on a trouvé la deuxième tombe plus riche du monde, non? Très intéressant. Et maintenant, dans notre projet, Carlos Elera est en train de travailler ici. Ça, c'est la côté de Ouaka Lirgansèche. Ça, c'est l'excavation qui a été faite. Il y a une tombe très importante ici, en bas, à côté. Ici, c'est la tombe d'une accompagnante. Non, n'est pas le personnage plus important. Était un des accompagnantes, un des personnes qui accompagnait le Seigneur dans son voyage dans l'autre monde, etc. Bien, alors, ça sont les projets dans lesquels est né le livre que je vais présenter ici. Alors, vous voyez là, première page, le frontispice, etc. Il y a les salutations du ministre de la Culture du Pérou, de l'ambassadeur italien. Je pense qu'ils ne sont pas très intéressants. Je pense que pour vous, c'est plus intéressant voir les articles scientifiques qui ont été faits par les archéologues péruviennes. Non? Et alors, on peut commencer par cet article qui a été fait par Bert Schmelt, du musée d'Hambourgo, en Allemagne. Il a fait une recherche, un hommage, on peut dire, à Hans Brüning, un Allemand, qui a commencé les recherches archéologiques dans le département de Lambayeque. Et à Hambourg, dans le musée d'Hambourg, il y a ces notes des excavations, et alors Bert Schmelt, de le même musée, a fait une reconstruction de recherche de Hans Brüning. Et Hans Brüning, c'est l'archéologue qui a donné le nombre au musée de qui parlait avant, le musée Brüning de Lambayeque. Après, il y a un article de Cristobal Makowski, c'est un archéologue d'origine péruvienne, qu'on dit le nom. Il était né en Pologne, mais maintenant il habite au Pérou, il y a beaucoup de temps, etc. Dans cet article, Makowski affronte une question très, très importante et peut-être que d'intérêt aussi pour les chercheurs français, pour ceux qui travaillent dans les musées, etc. Parce que, en général, on parlait de la culture lambayeque. Non, la culture lambayeque, c'est une culture qui s'est développée sur la côte de Pérou, dans le département de lambayeque, qui a donné le nom à la culture. Non, plus ou moins, la culture lambayeque va de 800 après de Christ jusqu'à 1375, plus ou moins. Non, c'est une culture qui s'est développée après la culture moche, que j'imagine que tout le monde connaissait. Non, ici dans le musée, il y a des pièces extraordinaires de la culture moche, etc. La culture moche, plus ou moins, c'est de 100 après de Christ jusqu'à 850 après de Christ. Alors, dans tout le monde, on parlait de la culture lambayeque. Mais ce qui est intéressant, c'est quand Carlos Wester, Izumi Shimada, un archéologue américain d'origine japonaise, qu'on dit le nom, ont découvert la tombe est de Wakaloro, avec la deuxième tombe plus riche du Pérou, etc., Shimada a pensé, et suivi par des autres archéologues péruviens, qu'il serait bien l'appeler Sicana. Alors vous, dans les musées, dans les livres, etc., vous pouvez trouver les deux nombres, Lambayeque et Sicana. Alors ça c'est un problème, on peut considérer de rien, parce que c'est un problème de nombres. En réalité, on ne sait pas, n'est pas clair ce qui est Sicana et ce qui est Lambayeque. Alors dans cet article, Christopher Makowski fait l'histoire de l'utilise de nom Sicana, etc., et présente la question. On peut dire que pour moi et pour lui, c'est bien continuer à utiliser le mot lambayeque, parce qu'on ne comprend pas bien ce que veut dire Izumi Shimada, même si dans les auteurs, il y a un auteur de notre livre, deux auteurs en vérité, qui suivent Shimada et il continue à parler des cultures sicanes. De toute façon, c'est un problème ouvert. No? Je pense qu'il faut laisser aux chercheurs la liberté, etc., d'appeler, de penser comme il veut. Alors, c'est un problème ouvert. De toute façon, ici, Christopher Makowski, pour la première fois, a affronté ce problème qu'on peut considérer un problème de nombre, mais n'est pas seulement un problème de nombre. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je vois. Dans cet article, Christopher Makowski fait des autres considérations sur le concept de culture. Alors, on parle de culture dans l'archéologie, non, culture, je viens de dire culture moche, culture lambayeque, etc., mais il y a des problèmes. En général, on pense qu'une culture, c'est comme un État, et n'est pas comme ça. Et en général, on ne considère pas la question des ethnies. Peut-être qu'une culture est compartie, est diffusée dans des ethnies différentes. Par exemple, en Europe, on peut parler des cultures gothiques. Un archéologue du Japon ou des Chinois pourrait parler des cultures gothiques ou romaniques, mais il y a la culture gothique a été faite par le français du nord, le français du sud, par les italiens, les espagnols. Alors, c'est une question compliquée qui est développée dans cet article. Après, en suivant la question des ethnies et de l'archéologie, Edgar Bracamonte considère les ethnies dans la rivière du Chancay, du rivière Chancay. Et Carlos Elera, qui est en train de travailler avec nous à Waka Lerganlesh, a fait cet article su Waka La Sventana, en présentant les résultats des feuilles les plus récents. Un autre article de Cristobal Makowski, qui, dans ce cas, elle explique sa vision et ce que la culture lambayeque ne se développe pas après la culture moche par un change, on peut dire, physiologique ou normal, c'est-à-dire que les mêmes personnes ont changé d'idée. Non, il pense qu'il y a eu une conquête militaire des populations qui sont venues des Andes, de la Sierra. Non, ça, c'est la nouveauté de cet article. Après, il y a cet article très intéressant de Paloma Carcedo qui présente l'iconographie de Lambayeque ou de Sicane dans l'orfèvrerie. Ici, il y a un autre article qui présente les fouilles plus récentes à Tucumé, où il y a cette pyramide, la plus longue construction en Europe du monde, c'est longue 800 mètres. Et après, c'est très intéressant, cet article de Carlos Wester, qui présente la tombe d'une prêtresse. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la côte nord du Pérou, il y a des tombes des tombes de femmes, étaient des femmes, n'étaient pas les reines ou les dames, les épouses du roi. Étaient ceux qui avaient le pouvoir. Non? Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être que dans la côte nord, les femmes avaient un rôle extraordinaire, très important, une exception dans les cultures anciennes et surtout une exception dans les cultures du Pérou, qui sont des cultures machistes. Alors, dans cet article, Carlos West présente la découverte d'une prêtresse à Chotuna, ou à Chotuna, Chonancap. Et après, Susana Ramirez présente à partir de recherches sur les fontes et sur les documents ethnohistoriques, la documentation sur la présence Inca dans le département de Lambayeque. La présence Inca, alors en général on pense à l'Inca, à les Inca comme un empire très fort, très bien organisé, etc. Ce qu'on voit, c'est que la présence Inca, qui dans le département de Lambayeque a duré seulement 50 ans, 60 ans, était une conquête véritable, etc., mais n'était pas un contrôle sur le territoire comme on peut penser, on peut dire une domination très, très faible. Et après, il y a l'article que j'ai écrit avec les collègues italiennes dell'Université de Milan-Bicocca qui ont fait les datations de thermoluminescence et de carbone 14 et que j'ai fait avec, nous sommes tous les auteurs, avec Luis Cero et Walter Alba. L'intérêt de notre article, je pense, si vous êtes intéressé de présenter surtout mon article, parce que je l'écris avec mes collègues, alors je peux répondre si vous avez des questions, affronte la question de la chronologie de Sipana, no? Où on a trouvé les tombes plus riches du monde. Et on a trouvé les tombes 1, 2, 3 qui expliquent, qui nous permettent de comprendre la cérémonie du sacrifice, c'est-à-dire le rituel plus important de la culture moche. Avant, on ne comprenait pas bien, alors je n'ai pas de temps, etc., pour l'expliquer, ce qui était ce rituel. Maintenant, on sait que, plus ou moins ce qui s'est passé dans ce rituel. Alors, la question de Sipane, de la chronologie de Sipane, c'est ça, que la tombe a été découverte par un waquero, je ne sais pas comment dire en français, un pilleur, avant du début des excavations scientifiques, no? Un pilleur a trouvé la tombe zéro, la tombe saqueada, on dit en espagnol, et après Walter Alba a commencé l'excavation scientifique, etc. Ça s'est passé dans 1987, et quand nous avons fait notre projet, tout le monde continuait à utiliser une seule datation de carbone 14 d'un caroube, d'un pal, no? de la tombe, qui disait que la tombe 1 était de 300 après Christ. Alors, moi, en parlant avec des autres chercheurs, bah, par exemple Steve Bourget, surtout Steve Bourget, avait des doutes parce que l'iconographie, alors dire 300 après Christ pour la culture moche, ça veut dire que nous sommes debout. Et l'iconographie de la tombe 1 ne montre pas la culture moche debout, mais montre la culture moche dans son splendeur. Alors, il y avait des choses qui ne marchaient pas, mais surtout, il y avait seulement une datation. Ce qui était singulier est qu'après, il y avait des chercheurs français de Bordeaux qui avaient fait des autres datations qui étaient totalement différentes. Et cette datation des chercheurs français, comme les nôtres, prenait Sipan, la tombe 1, 2, vers le 700 après, non, plus ou moins. Non. Et, mais ce qui était drôle est que tout le monde continuait à ignorer la datation de ce chercheur français de Bordeaux et utilisait seulement une seule datation publiée par National Geographic dans 1988. Non. Bien, alors, la question était un petit peu compliquée. Tout était devenu plus clair parce que en continuant notre projet, Louis Cero a fait la chronologie relative de la plateforme funéraire. C'est un travail très bien fait, non, complet. Alors maintenant, on connaît très bien la chronologie relative de la plateforme funéraire. Pendant que Cero faisait la chronologie relative de la plateforme funéraire, nous, dans le domaine de notre projet, nous avons porté à Milan des pièces de différentes tombes de la plateforme 14 et de la plateforme funéraire, et on a fait 21 datations. Ce qui est intéressant, alors vous savez qu'en général il y a des archéologues, je vois ici Pascal Mogne, qui est un archéologue bien connu, alors il peut dire, alors, en général, il y a des archéologues qui font très bonnes datations, etc. Mais dans le Pérou, quelquefois, il y a une expédition américaine qui fait une datation avec le carbone 14, et c'est tout. Non, alors, ouais, c'est mieux une datation que rien. De toute façon, le problème, c'est ça, qu'une datation de carbone 14, s'il n'y a pas une bonne chronologie relative, c'est seulement indicatif. Non. Alors, nous avons fait 21 datations, mais nous avons vu que cette datation ne coïncidait pas avec la chronologie relative. Alors, on a cassé cette datation sur 21. Alors, ça veut dire qu'on a pu utiliser 14 datations de thermoluminescence de carbone 14 avec un accord parfait avec la chronologie relative. Et alors, maintenant, je vais accueillir très rapidement, on sait exactement quelle est la datation de la tombe de la plateforme funéraire et de toutes les tombes de Sipan. Alors, notre résultat coïncide avec le résultat des chercheurs français, c'est-à-dire que la tombe 1, plus ou moins, arrive jusqu'à le 700 après Christ. Ça, c'est une date très intéressante pour tout le Pérou, parce que ça veut dire que la culture moche coexiste avec la culture Wari, que c'est le premier empire andine, ça veut dire, c'est une chose très intéressante, que la culture moche n'est pas détruite par El Niño, par exemple, par les alluvions d'El Niño, et qui se récupère très bien. Il y a eu des Niño catastrophiques, mais la culture moche a continué après ce Niño. Alors, c'est une tonterie de dire qu'il y a un phénomène naturel qui détruit une culture. C'est une chose qui, en général, ne marche pas avec les Mayas, et nous avons démontré qu'ils ne marchent pas aussi à Sipan. Nous avons fait aussi vérifier notre datation avec des modèles bayésiens. Je n'explique pas ce que sont les modèles bayésiens, etc. De toute façon, alors, nous sommes arrivés à faire une datation que je crois c'est très très fondé, etc. Nous avons alors, ici sont les modèles bayésiens avec le carbone 14 et la thermoluminescence. les modèles, toutes les datations, et sans les modèles à gauche, sans les modèles bayésiens, et à droite avec les modèles bayésiens. Et alors nous avons ce résultat définitif des différentes tombes de Sipan. On a utilisé aussi des autres datations de carbone 14 qui ont été faites par Cero. Et alors maintenant nous avons le modèle plus complet de la datation de Sipan. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est ce que je dis sur le développement de la culture Moche, sur la fin de la culture Moche, sur la relation avec Wari. Et surtout, il y a une autre chose, je pense, très intéressante. C'est-à-dire que quand, après nos résultats, avant, il y avait des datations des autres sites Moche qui n'étaient pas utilisées parce que ne coïncidaient pas avec la littérature. Maintenant, il faut les réviser. Mais surtout, il y a une chose très intéressante, c'est-à-dire que si on considère un bois, non, surtout dans nos régions, il n'y a pas une grande forêt, parce que c'est le désert, non, il y a seulement la forêt sèche, etc. Alors on ne peut pas considérer seulement la datation du bois, c'est-à-dire le carbone 14 dit seulement quand l'arbre a été coupé, c'est tout, ne dit pas quand l'arbre, le pilier a été utilisé dans la tombe. Peut-être que le pilier, l'arbre, a été transformé dans un pilier et a été utilisé pour siècles avant d'aller dans la tombe. Et aussi, dans des autres datations, des autres recherches archéologiques, par exemple, on va dater en bosse de coton. Mais si on met en bosse de coton et on fait le carbone 14 du coton, ça veut dire quand a été pris le coton, mais peut-être qu'il y a une bourse rituelle qui a été utilisée pour des siècles. Alors ça, c'est le problème. Je crois que dans une autre chose intéressante de notre recherche, c'est qu'il faut considérer qu'il y a des pièces qui se trouvent dans des tombes, mais qui ne veut pas dire l'été des tombes. Ils disent seulement quand un arbre a été coupé, ou quand on a pris le coton pour faire une bourse, un vêtement, une autre chose. Alors, je me ferme ici parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
Non.
Je suis. Oui, c'est fini.
Alors, est-ce que vous voulez poser des questions?
Merci Antonio pour ta brillante démonstration, et je vais lire ton livre avec beaucoup d'intérêt, surtout justement la partie de la chronologie de Sipan, parce qu'en effet c'est assez compliqué. Le mot lambaye qui est pour nous compliqué, je ne suis pas du tout peruaniste, évidemment lorsque étudiant j'abordais la question, le mot lambaye, je l'ai vu bien des fois, il était mis à toutes les sauces, ce mot, c'est une région, c'est une culture, c'est une période, et jusqu'à les travaux récents de Walter Alva et Etienne, on situait mal cette région, cette période. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et alors, il y a aussi la question de Sipan, Sikan. Ça aussi, c'est pour les non-spécialistes, ça pose un problème. Alors, Sipan, c'est un site, bien sûr.
Oui.
C'est contemporain visiblement de Mochica, c'est ça?
Oui, c'est... Oui, oui.
Voilà. Et Sikan, c'est plus tardif?
Alors, Sikan, oui. Alors, ça, c'est la question.
Réponds à ça.
Non, alors, les deux mots, Sikan, Sipan, peut-être, il dit, je ne suis pas un linguiste, mais les linguistes disent, qui dérive du mot Mochica, qui veut dire... la maison de la lune. La lune était une divinité très importante, etc. Alors, l'origine, c'est pareil. C'est très intéressant. Sipan, c'est un toponyme d'un village qui n'est pas, en vérité, maintenant habité par les descendants des anciens habitants de la région. Les habitants de ce village, dans la côte nord, ont été portés en bas sur la côte de la Sierra par les propriétaires des grandes extensions de terre, etc., étaient des paysans portés sur la côte. Et ils n'ont pas conservé ce raïs, cette identité culturelle. Alors, si Khan était l'origine est la même, était un mot qui existait dans les documents coloniaux. Après, dans la colonie et dans la République, le mot a disparu parce que il y avait une immense fonde agricole de terre, non? Dans le Pérou, il y avait des domaines de terres grands comme toute la région de l'Île-de-France. Par exemple, 22 000 mètres carrés. Énorme, non, énorme. Il y avait des fonds qui allaient de la mer à l'Amazonie. Bien sûr, il y avait le désert, etc. De toute façon, on était des grands propriétaires de terres, etc. Non. Alors, dans la colonie, le mot Sipan a disparu et on parlait de Batan Grande. Batan Grande, c'est un instrument qu'on utilise pour dans l'agriculture et aussi pour l'or, etc. Quand, alors, après la découverte de Sipan de 1987, avec les tombes plus riches du Pérou, était une chose qui a changé totalement sa découverte, la géologie du Pérou. Mais et aussi, par exemple, dans les publications scientifiques, il y a des chercheurs américains et péruviennes qui parlent font des différentes périodes. La période actuelle, c'est la période après Sipan, parce que on a vu qu'il y avait cette tombe d'une richesse extraordinaire. On pensait que dans le département de l'Ambayeque, il n'y avait rien. Alors, tous les chercheurs ont commencé de nouveaux projets dans plus au sud, dans le département de la Libertad. Par exemple, à Cao, on a découvert la seigneur de Cao, une autre femme de pouvoir, etc. Non? À San José de Moro, etc. Izumi Shimada, qui est ce chercheur, ce archéologue nippo-américain qui déjà travaillait là-bas, a continué à travailler dans l'Ambayeque et elle a commencé un projet dans le bosque, dans la forêt de Pomac, non, qui était le site qui on appelait Sikan, après Batan Grande, après Bosque de Pomac. Quand il a découvert la deuxième tombe plus riche du monde, il a pensé que, étant donné qu'il avait une série très complète, de toutes les fouilles de sa culture, était bien dans un nouveau mot. Alors, il a donné le nom Sikan. Et ça a créé des problèmes, parce que dans le Pérou et dans le monde, maintenant, il y a deux écoles. L'école qui parle de culture lambayeque et l'école qui, en suivant Shimada, Carlos Wester, par exemple, etc., qui a travaillé avec lui, parle de culture sicane et ils disent on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est lambayeque. Alors, c'est une question ouverte. Je ne sais pas si j'ai répondu de toute façon. Alors, l'origine, c'est pareil. Les mots se réfèrent à deux sites différents. Mais dans un cas, Sipan indique seulement un site Moche. Mais maintenant, l'autre site Sikan est devenu le nom d'une entière culture. Je ne sais pas si vous répondez.
Vous pouvez feuilleter le livre si vous le souhaitez. Et il y a aussi un livre
qu'Antonio va lire.
Si, si. Vous pouvez, si vous fouillez, si vous voyez ce livre, vous pouvez voir quand je dis ce que me réfère quand je dis les pièces en or les plus beaux du Pérou.
Vous voulez pas nous montrer encore quelques images que vous aviez
Non. Non, non, je pense que ça suffit parce que c'est l'article.
D'accord.
Je ne sais pas si vous avez. Alors, par exemple, ici, ça, c'est la chronologie relative des feux qui ont été faits à Sipane après l'abandon du site, etc., par la culture lambayeque et ceux qui sont venus après. Sipane a été continué à être. Pas habité, visité jusqu'à la conquête du Pérou. La grande question qui se pose les archéologues péruviens, c'est-à-dire Walter Alba et Lucio Cero, qui travaillent là-bas, c'est ça. Alors, Sipane, c'est un site petit, mais pas une grande chose, c'est un site petit. Si on considère les constructions péruviennes de la culture moche, si pense un petit peu, c'est petit, n'est pas grand, n'est pas. À côté, à 10-20 km, il y a Pampa Grande avec une pyramide d'un million de mètres cubes. Et à Pampa Grande, a travaillé un petit peu Shimada, mais on n'a découvert rien. Il y a des pillés qui vont là-bas, qui font des rituels. Etc. Mais on n'a trouvé rien à Pampa Grande jusqu'à présent. Alors la question c'est ça. Qu'est-ce que fait l'élite moche après la fin de Sipane? L'élite moche arrive à 60 après Christ. Alors la culture lambayeque commence vers le 850. Alors c'est-à-dire il y a un siècle. Où sont allés? Où sont allés? Ils ont abandonné Sipane. La question, c'est ça. Ils sont allés à Pampa Grande? Ça, c'est la question. Alors, pour faire un paragone avec l'Europe, l'Italie, non, Sipane, pour la beauté de ses pièces, c'est comme Florence. Mais Florence, c'est petite. Alors, qu'est-ce qui a passé dans les sites plus importants? Où sont allés les rois? Ça, c'est la question qui est ouverte maintenant. C'est-à-dire la relation entre Pampa Grande et Sipane.
Oui, c'est une remarque, si ça marche, une remarque que je me fais en voyant tes images, et notamment les photos de structures en briques crues. Ça, c'est quelque chose de fascinant. La brique crue est extrêmement difficile à fouiller. Tu sais de quoi je parle, bien sûr. Je travaille aussi sur la brique crue, mais pas au Pérou, mais dans d'autres régions. Et en fait, je vois qu'il y a deux paradis de l'archéologie de la brique crue, le Pérou du Nord, avec les grands sites Mochica ou Chimú, encore bien sûr, comme Chan Chan, et puis le Moyen-Orient, le Proche-Orient. J'ai travaillé il y a bien longtemps en Irak, et j'ai pu voir aussi j'ai pu travailler dans des zones de brique crue, et c'est impressionnant, la complexité de ces structures, le fait que c'est de la brique crue, c'est-à-dire de la terre, soit de l'adobe, c'est-à-dire des briques, soit du pisé, c'est-à-dire des remplissages, et que pour le non-initié ou l'étudiant débutant, comme j'étais il y a bien longtemps, on ne voit rien. On ne voit strictement rien au début. On ne fait pas la différence entre les murs et puis l'éboulement des murs qui est tout autour et puis l'environnement qui est de la terre aussi, avec à peu près la même couleur, la même structure, etc. Et c'est peu à peu que l'œil s'habitue et qu'après, bien des fouilles, bien des années, on peut découvrir la splendide beauté de ces structures qui sont en plus assez fragiles. Hein. Quelques pluies et le non-entretien finissent par détruire toutes ces structures, que ce soit au Pérou ou que ce soit en Irak, en Mésopotamie ou ailleurs, là où il y en a, bien sûr. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de voir le caractère tout à fait particulier d'une archéologie bien spécial, qui n'est pas de pierre, mais de terre.
Oui, alors, en parlant de briques crues, alors vous voyez ici, nous sommes dans la plateforme funéraire. Ça, c'est la tombe 14. Il y a le squelette d'une femme et d'une lama. Alors, je ne sais pas si je peux grandir l'image. Mais, alors, ici, sont des briques sèches, crues, mais ne sont pas lavées par la pluie. Nous sommes à l'intérieur de la plateforme funéraire. Alors, vous voyez l'extérieur. Ça, c'est son briques crues. Ça a été brûlé. N'était pas seulement des briques crues, ça a été intonaché, était poli et peinté. Ces constructions étaient jaunes et rouges. Non? Ça, c'est la découverte de Cero. Vous la voyez ici. Non? Ici, vous voyez. Alors, la dernière phase de la plateforme funéraire présente une construction avec l'intonac rouge et la construction qui était en bas a une intonac jaune. Et alors, ça, ici le brique, non. Et ça maintenant, c'est présent ici. Ça, c'est le problème. Et le grand problème qu'ont les archéologues, c'est ça, je ne sais pas ce qu'il fait Pascal Mogne, on se connaît, mais on a déjà parlé de ça. Mais, alors, je ne sais pas ce qu'on fait dans le Moyen-Orient, mais c'est un problème, parce que en suivant la convention de Venise, s'il y a un problème, je ne sais pas, à Notre-Dame, il faut utiliser les mêmes pierres de Notre-Dame. On ne peut faire une nouvelle construction avec des autres pierres. Mais ici, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les briques deviennent de la poudre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un problème très compliqué. Alors, je peux dire qu'en général, les archéologues, tous les archéologues du Pérou, ils sont forcés à ne suivre pas la Convention de Venise, parce qu'ils doivent faire des briques nouveaux. Il n'y a pas d'autre solution. La solution différente, c'est laisser la poudre. Ou on peut, comme on a fait à Lima, mais à Lima, il y a un climat un petit peu différent, c'est-à-dire à Lima, à la Huacapuliana, on nettoyait la pyramide, mais à Lima, il n'y a jamais de la pluie. Non? Même dans cette année où il y a le Niño Costero, à Lima, il n'y a rien. Ils disent que la pluie, mais pour nous, il n'y a pas de pluie. Non? Et ici, il y a la pluie. Pas toutes les années. Peut-être quand il y a le Niño, c'est-à-dire chaque 10 années, etc., mais il y a de la pluie fort. Et alors, les briques deviennent de la poudre. Alors, si on fait un nettoyage et on présente les briques anciennes avec la nouvelle pluie, les briques deviennent de nouveau poudre. Et à la fin, on ne reste rien. Alors, c'est un problème très compliqué de travailler avec les briques crues.
Plus là, avec une dimension pareille, on ne peut même pas couvrir pour protéger.
Alors, c'est une autre question. Je ne sais pas ce que font les archéologues dans des autres sites. Alors, par exemple, en Mexique, à Cacachla, il y a un grand couverture. C'est bien. C'est différent. Et de toute façon, à Cacachla, il n'y a pas. On a fait ce grand couverture pour couvrir des murales de peintures précolombiennes. Ici, c'est un grand problème. Maintenant, aujourd'hui, dans la plateforme funéraire, il y a une couverture. La couverture plus grande a été faite à Cao. On a découvert la Signora de Cao, la Dame de Cao, un autre fan des pouvoirs, etc. Le problème, c'est ça. Il y a une couverture immense dans le désert. Non? Et le problème, c'est que d'un point de vue esthétique, n'est pas une chose très jolie. Parce qu'elle change totalement le paysage. Et ce toile immense qui couvre, je ne sais pas si coton, je pense que ce soit plastique, matériel synthétique, spécial, etc. Blanche, une toile immense, dans le désert, avec la poudre, il est devenu jaune. Alors, n'est pas une chose très jolie. Alors, déjà, cette toile immense change le paysage. Après, s'il est sale et n'est plus blanche, c'est un grand problème, un grand problème. Je n'ai pas les images, mais je pourrais montrer les images aussi de la de Waka de la Luna, non? C'est le problème. Pardon? La Waka de la Luna est couvert, bien sûr, c'est couvert. Ou a travaillé Santiago. Alors, le problème de la couverture, c'est un problème très, très compliqué.
Bon, alors, est-ce qu'on s'arrête là? Le livre circule. Merci beaucoup, Antonio.
Merci à vous.